Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Comme chaque jour et même au cœur de ce mois de juillet, le club BFM Crypto vous accompagne chaque jour aux alentours de 16h30. Valentin Demey, bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Qui vient de traverser la fournaise lui aussi, journaliste pour Crypto. C'est également au téléphone avec nous Xavier Fenot. Bonjour Xavier.
Bonjour
Interactive
Guillaume.
Trading et Vincent Gann, analyste technique indépendant. Salut Vincent.
Salut tout le monde.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Tiens, une fois n'est pas coutume, Vincent et Xavier, on vous donnera la parole dans un instant, juste après que Valentin nous aura parlé d'Ether et d'Ethereum. Le 25 décembre, c'est le divin enfant, et le 19 septembre 2022 sera désormais l'autre date à retenir dans la communauté crypto. En l'occurrence, le 19 septembre, ce sera la grande apparition, le merge, c'est ainsi qu'on l'appelle dans l'univers Ethereum, l'an 1 de l'avenir des cryptos, diront les Ether maximalistes. C'est quoi le merge? Pourquoi cette date du 19 septembre s'annonce-t-elle importante, Valentin, dans l'univers Ethereum?
Mais très importante, et ça fait des années qu'on l'attend. Et c'est pas impossible que le divin enfant se fasse encore attendre un petit peu malgré c'est une semaine, la semaine du 19 septembre. On lui laissera 7 jours pour venir au monde en espérant qu'on ne décale pas encore. Ce merge, c'est quoi? Effectivement, c'est grosso modo Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, qui va changer de manière de fonctionner, de se sécuriser. Aujourd'hui, Ethereum fonctionne sur les mêmes bases que Bitcoin, c'est-à-dire en proof of work. C'est les mineurs qui font des calculs pour essayer de trouver une solution, de rentrer en parallèle toutes les transactions de la blockchain et ainsi de la sécuriser et de la décentraliser. Ça, c'est le fonctionnement actuel d'Ethereum et celui de Bitcoin. Ça ne bougera pas pour Bitcoin, mais ça bougera pour Ethereum. Du coup, on l'espère dans la semaine du 19 septembre. Avec Ethereum 2.0, qui va passer en ce qu'on appelle le proof of stake.
Et là, fini les mineurs.
Fini les mineurs, exactement. C'est désormais toute personne qui détient et qui possède 32 Ether. Donc aujourd'hui, l'Ether, c'est autour de 1 400 $. Il a d'ailleurs un peu augmenté. On verra ça avec les traders dans quelques minutes. Et c'est pas anodin. C'est justement suite à cette annonce en grande partie. Et donc, toute personne qui détient 32 Ether, à partir du 19 septembre, pourra pleinement les déléguer au réseau pour devenir un validateur et non plus un mineur. Et voilà, le réseau pourra choper à toute personne déterminée, toute personne qui a 32 Ether pour valider la transaction. Donc c'est beaucoup moins, allez on va dire, énergivore que le proof of work, 95 à 99 fois moins énergivore. Donc c'est cette transaction, cette transition vers ce proof of stake qui permettra aussi, dans un second temps à Ethereum, de pouvoir avoir beaucoup plus de transactions par seconde. Aujourd'hui, on est à 12 transactions par seconde. Alors, c'est pas dans la minute même du merge que ça changera. C'est à la suite de ces solutions. Le merge, c'est vraiment quand même le gros basculement entre ces deux systèmes de sécurité, le proof of work au proof of stake.
Et les Ether maximalistes, les fans d'Ethereum, ceux qui croient plus en Ethereum qu'en Bitcoin, se disent que le merge sera l'occasion sans doute d'augmenter ce qu'on appelle la scalabilité, l'échelle des usages que permet la blockchain Ethereum face à Bitcoin. Et l'idée, c'est que ça finisse par peut-être un jour ringardiser Bitcoin.
Alors, effectivement, certains peuvent imaginer ça. Alors, c'est encore une fois pas du tout les mêmes usages. On a Bitcoin qui, sur lequel, pour l'instant, on ne peut pas vraiment programmer. C'est-à-dire que c'est un très bon outil d'échange de valeur et de conservation de valeur. C'est le premier. Il est même, en fait, d'une certaine manière utilisé sur Ethereum, le Bitcoin. Même si c'est vraiment deux blockchains différentes, on a la capacité de le déporter sur cette dernière. Donc, ça reste un actif très important qui ne sera, je pense, jamais détrôné sur cette capacité à conserver la valeur. Par contre, si on veut rajouter de la programmabilité, si on veut faire les métavers, le Web3,
les usages,
ces usages, effectivement, qu'on connaît, qu'on échange ici, la finance décentralisée, ça, c'est sur Ethereum. Et donc, effectivement, dans un second temps, pas tout de suite, pas dans la semaine du 19 septembre, si tant est que cette date soit sauvegardée, on pourra monter en capacité de transaction. Par contre, ça sera dans un second temps avec les fameux Layer 2. Mais tout ça, ça fait partie de ce gros changement que va subir Ethereum. Mais ça fait, encore une fois, depuis presque la création d'Ethereum, que Vitalik Buterin, le cofondateur, nous annonce, donc autour de 2015-2016, qu'un jour, il passera en proof of stake. Voilà, on est tout proche. A priori, cette date sera la bonne, autour du 19 septembre.
Et donc, je vous sens prudent sur la date du 19. Autour du 19, la semaine du 19.
La semaine du 19, voilà. C'est effectivement, pendant la semaine du 19 septembre, moi, je prends le pari que ça sera bon pour cette fois.
Le nouveau 25 décembre est celui des fans de crypto, le jour de l'an 1
Le jour du nouvel ère, effectivement, parce qu'on entend cette petite musique de la consommation trop importante des crypto-monnaies. Raphaël Bloch, effectivement, parlait la semaine dernière, hier, sur ce plateau, de l'intervention du nouveau ministre de la, du numérique, Jean-Noël Barrot, qui était hier à l'événement de la DAN, qui nous disait que l'un des défis, c'était justement de réduire cette consommation énergétique. Alors, c'est un débat qu'on a beaucoup sur ce plateau, sur est-ce que ça consomme vraiment, est-ce que c'est trop. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si cette petite musique continue de monter, alors, bien évidemment, Ethereum sera un allié très important à cette consommation d'énergie baissée.
Mais en passant au proof of stake, on passe sur un système où il faudra avoir plus d'argent, en gros, pour avoir plus de pouvoir. C'est ça. Alors du coup, c'est une forme de promesse qui s'éteint là sur l'univers crypto. C'est les plus riches auront plus d'influence à travers cette transformation d'Ethereum, ce qui n'était pas l'idée initiale de l'univers crypto et encore moins du Bitcoin.
C'est la grande difficulté de ce fameux triptyque des blockchains. Donc il faut effectivement garantir la décentralisation, la scalabilité, la sécurité. Mmh. Là, on va parier peut-être sur davantage de gens qui ont 32 Ethers, là où une machine de minage pour miner de l'Ether, c'est entre 3 et 4 000 dollars, on peut s'en sortir. Bon, bah, effectivement, là, il en faut 20, 25 au prix actuel, 1 000 dollars pour faire une chose similaire. Voilà, donc effectivement, c'est des débats de fond, mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est certain, ça baissera la consommation de fait, puisque c'est pas le même algorithme de sécurité.
Xavier Fenot et Vincent Gann nous accompagnent. Xavier, sur l'Ether, qu'on suit particulièrement, puis le Bitcoin aussi, le cours du Bitcoin, cette date autour du 19 septembre, cette période dans laquelle on voit désormais le merge se réaliser à la rentrée, est-ce que ça a eu un impact sur les cours, et est-ce que vous pensez que le potentiel pour la suite est en train de se transformer sur Ether? Et puis aussi, on peut parler de Bitcoin, bien sûr, si vous le souhaitez, Xavier.
Alors effectivement, il y a cette date clé, même si on a l'information quand même depuis un moment que ce merge va arriver, et on a aussi en fait à court terme deux éléments, c'est que globalement en fait ça va mieux sur l'ensemble du marché des cryptos. Alors l'Ether en profite hein, puisqu'il a rompu et franchi cette zone de résistance dont on parle et qui n'arrivait pas à céder depuis un mois, qui était 1 300 $. On est maintenant au-dessus de 1 500 $, mais en fait l'ensemble du marché des cryptos qui était plutôt calme depuis maintenant un mois, c'est le calme ambiant qu'on avait connu sur les marchés traditionnels, puisqu'on sait que les deux marchés sont plutôt corrélés. Ça s'est transmis au marché des cryptos. On a eu d'abord quelques lanceurs d'alerte de pump, si je puis dire. C'est des démarrages, en fait, de quelques altcoins. On avait parlé la semaine dernière ensemble avec, par exemple, Matic, qui depuis a pris 80%, qui a fait x3 depuis ses plus bas depuis un mois. QNT qui a fait x2,5, AAVE x2. Et en fait, on avait ce calme apparent en fait de manière générale avec une capitalisation totale qui ne bougeait pas trop et le Bitcoin puisqu'on en parle qui est aussi dans un range latéral et qu'on pouvait justement travailler à court terme des départs à l'aide notamment des moyennes mobiles à 20 jours. La dernière fois je vous en parlerai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui finalement globalement ça se transforme effectivement en signaux positifs. Donc à commencer par les altcoins, on a eu l'Ether effectivement qui a surperformé le Bitcoin et largement depuis quelques jours, donc en passant au-dessus des 1 300 $. Aujourd'hui, le Bitcoin a plus de mal. Il essaye l'équivalent en fait des 1 300 $ sur l'Ether, cette zone de résistance, et 22 000 $ sur le Bitcoin. Il est tout juste au-dessus, donc ça a un peu plus de mal à passer. Il sous-performe l'ensemble du marché et on a même des retardataires sur les altcoins qui sont en train de profiter de cette situation et de ce calme apparent. Donc la capitalisation totale repasse au-dessus des 1 000 milliards de dollars. Ça, maintenant, il va falloir la tenir plusieurs jours pour tenir le rythme. La question maintenant, c'est pendant combien de temps ça va durer ce feu d'artifice et jusqu'où? Déjà, faut pas que le Bitcoin, parce que même si c'est pas le dominant aujourd'hui, bah, c'est un leader quand même. Donc, s'il bat de l'aile, bah, c'est jamais forcément bon pour le reste du groupe. Faut pas qu'il repasse sous les 21 000 $. Faut tenir les niveaux d'où on a pris appui sur toutes les dernières impulsions. 1 350 $ sur l'Ether, 950 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Et puis après, c'est au cas par cas. Et tant qu'il n'y aura pas de dégradation, en fait, sur les marchés traditionnels, un dollar qui continue à se calmer, bah, ça peut durer un petit moment. En fait, cet élan haussier qu'on a partout. Donc, attention, hein. La dernière fois, je disais, lors de mes dernières interventions, qu'il faut continuer à travailler parce que ça commence à frétiller. Il faut persévérer et rester discipliné. Aujourd'hui, il ne faut pas rentrer non plus en mode surchauffe, pas oublier de freiner parce qu'on est en ligne droite. Donc, voilà. Continuer à ajuster ses positions. Ne passons pas en état de panique, en état d'euphorie. Donc, continuons d'y aller progressivement. Mais effectivement, ce qui se passe sur l'Ether, c'est beaucoup plus positif que ce qui se passe sur le Bitcoin.
Et jamais oublier cette phrase de Warren Buffett sur les marchés traditionnels, mais on imagine que ça peut s'appliquer aussi aux cryptos. Les marchés ne montent vraiment que dans le scepticisme. Et ils chutent dans l'euphorie. Vincent, quel regard portez-vous sur justement cette remontée depuis quelques jours des cours du Bitcoin et de l'Ether?
Oui, bonjour Guillaume. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les excellents exposés de Valentin et Xavier. Alors, que dire de plus? Non, simplement, je vais être bref. parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Déjà, il y a un contexte qui change, qui est le contexte des marchés actions stabilisés depuis plusieurs semaines et qui là, comme vous le soulignez tout à l'heure, sont en train d'accélérer pour des raisons fondamentales. Ça, c'est une bonne chose. Le dollar qui cesse de monter, voilà, pour le contexte cross asset, tout ça est favorable au marché crypto. Maintenant, je vais reprendre ce que disait Xavier, tout ce qu'il a pu citer, la capitalisation boursière totale, l'ETH vis-à-vis du BTC. Toutes ces courbes, moi je pratique l'analyse technique dessus et j'ai une conviction qui est en train de naître, que nous sommes en train de vivre une semaine de rupture, probablement la première semaine depuis novembre 2021, qui va voir des signaux techniques haussiers sur des graphiques de moyen terme sur le marché crypto. Donc il faut tenir le prix, hein, la semaine n'est pas terminée. Hein. Je pense qu'on est en train de vivre une semaine de rupture et je reviens sur cet aspect de surperformance de l'environnement des altcoins vis-à-vis du BTC. C'est aussi quelque chose qui se confirme. Et là aussi, lorsque je pratique l'analyse chartiste sur le ratio entre les alts et le cours du Bitcoin, là aussi, le marché dépasse des résistances. Alors, comme le disait Xavier, restons prudents. Il suffit de faire cet exposé aussi pour que le marché ait envie de revenir sur ses plus bas. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe ce début de semaine. Et en l'état, si nous pouvions avoir les prix actuels en fin de semaine, eh bien moi je dis semaine de rupture haussière de moyen terme.
Eh bien, merci messieurs. On va suivre tout ça très près. Au cœur de l'été, Vincent Gann, analyste technique indépendant, Xavier Fenot pour Interactive Trading, nous accompagner en direct. Valentin Demet, toujours avec nous, Cryptost. Et la semaine prochaine, non, on y est là, c'est cette semaine d'ailleurs.
C'est cette semaine.
L'Ethereum CC, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est l'une des plus grosses conférences sur Ethereum de l'année. Et effectivement, ça tombe avec, comme par hasard, quelques jours après cette annonce du merge, pendant que tous les cours remontent. Donc, c'est cette plus grosse conférence qui se tient actuellement à la Maison de la Mutualité, où 99% de l'écosystème Ethereum est en train de faire des conférences dans une dizaine de salles à la Maison de la Mutualité. Donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est organisé en l'occurrence par Ethereum France, qui est une association qui représente l'écosystème Ethereum en France. Donc c'est très important, c'est très gros et on attend de grosses annonces des plus gros protocoles de la finance décentralisée, des NFT et même bien sûr d'Ethereum. Et puis il y a même le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui chaque année vient et qui est encore une fois toute la semaine à Paris et qui devrait nous donner ses grandes tendances pour l'année à venir, et ce sur quoi peut-être l'écosystème doit plus se pencher que d'autres.
Vitalik Buterin est à Paris.
Exactement.
C'est la capitale mondiale d'Ethereum, alors.
Pour cette semaine, exactement.
Exactement. La hiérarchie des plateformes crypto, pendant ce temps, est rebattue, Valentin. Binance dépasse Coinbase en devenant, en effet, le plus gros détenteur de Bitcoin au monde, la plus grosse baleine ever.
Ils en ont 500 000. Alors, Coinbase en avait bien plus, entre 6 et 800 000 à peu près. Encore une fois, on le sait grâce à la blockchain, on peut observer un peu les adresses qui détiennent des crypto-monnaies. Celles des grosses plateformes sont identifiées. Donc, par contre, là où ça change, c'est que les courbes se sont croisées il y a quelques jours et Coinbase est passé derrière Binance. Binance qui s'impose de plus en plus comme leader, alors que la majorité peut-être des plateformes étaient en train de licencier. Eux, ils prenaient il y a quelques semaines encore le contre-pied en annonçant des postes, plusieurs centaines de personnes qu'ils souhaitaient recruter sur différents projets et différentes structures de l'entreprise. Donc ils prennent vraiment le contre-pied, même sur le volume. Hein. On a Binance qui a fait, sur les dernières 24 heures par exemple, 3 à 4 fois plus de volume en termes de milliards que Coinbase. Là, sur les chiffres que j'ai, c'est celui de début de fin de semaine dernière, il y avait 24 milliards de dollars contre 3,1 milliards sur Coinbase. Donc, vraiment, la dynamique est en train de changer, notamment parce que Binance a bien plus de paires de trading que Coinbase. Coinbase, c'est peut-être l'étape numéro une pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la crypto. Mais il y a beaucoup moins de crypto-monnaies. Je crois que Binance doit être autour de 500 paires de trading. Donc, effectivement, c'est un argument assez important, d'autant que pour fêter leurs 5 ans, ils ont, je crois, baissé les frais ou même annulé les frais. Donc forcément, ça pousse la dynamique dans le bon sens.
Binance qui est en train d'accroître son avance donc sur ses rivaux dans cet univers des plateformes centralisées en crypto. Quel avenir par ailleurs pour les stablecoins? Alors ça va dépendre de la réglementation, MiCA par exemple, mais les innovations permettent d'espérer un avenir encore florissant malgré ces réglementations de plus en plus strictes, en tout cas en Europe. AAVE est en train de porter un nouveau projet de stablecoin, Valentin.
Ouais, alors effectivement, pour l'instant, c'est à la communauté de savoir si on ira dans cette direction ou pas, parce que c'est un des protocoles de cette fameuse finance décentralisée qui est d'ailleurs actuellement à l'Ethereum Sisi, à la maison de la mutualité, et on attend de son fondateur finlandais Stani Kuletsov quelques annonces importantes sur ce protocole.
Vous avez super bien prononcé Stani Kuletsov.
Ouais, je me suis entraîné un petit peu avant sur le plateau, je reconnais, mais effectivement ils sont en attente de la part d'AAV quelques informations sur ce protocole, mais ça sera exactement comme le stablecoin qu'ils ont annoncé la semaine dernière, que des idées, que des dynamiques qui devront ensuite être débattues sur le forum de gouvernance de la plateforme AAV et ensuite être votées par toutes les personnes qui possèdent le token de gouvernance, arriver à un certain consortium avant d'être validé et donc implémenté dans le code principal d'AAV. Là, on parle effectivement d'un stablecoin qu'ils appellent le GHO, que je pense, sans trop me mouiller, qu'on verra très vite dans le top 30 des crypto-monnaies et parmi les 5 stablecoins les plus utilisés à l'avenir sur les crypto-monnaies, à côté du DAI, de l'USDT et de l'USDC. Ça sera un stablecoin décentralisé. On a quand même des systèmes un peu similaires avec MakerDAO et son DAI, hein, son stablecoin qui suit le prix du dollar, parce que c'est ça l'objectif dont on parle, c'est de suivre le prix du dollar, sortir de la volatilité des crypto-marchés, des crypto-monnaies. Quand le marché baisse ou le marché augmente, on peut se protéger. Et puis, on l'a vu ensemble il y a quelques semaines aussi, se protéger de certaines inflations dans certains pays. Donc là, on a quand même AAV. Globalement, aujourd'hui, c'est 10 milliards de dollars de total value lock, donc sur le protocole, 10 milliards de dépôts. Ils ont donc une très grosse capacité pour surcollatéraliser ce stablecoin et le proposer à leurs clients sans avoir le risque qu'a connu Terra Luna.
C'est ça. Voilà, c'est la question qu'on a envie de se poser du coup.
C'est pas du tout la même chose.
C'est du stablecoin solide a priori.
Ouais, parce qu'effectivement, il y aura vraiment de la liquidité dans le protocole pour garantir que celui-ci est robuste.
À la communauté de trancher.
À la communauté de trancher. Et ça peut donner un dernier indice, puisqu'on a su il y a aussi quelques jours, et ça sera annoncé tout à l'heure, que AAV continue d'avancer sur sa néobanque, sa carte bancaire, et on voit que quand tout se touchera, ça devrait faire quelques belles choses.
Un nouvel écosystème, nouvelle galaxie peut-être en devenir. Merci d'être passé nous voir, Valentin Demey, notre
Guillaume,
explorateur de cet espace crypto qui est en train de se faire une place dans le monde réel. À très bientôt.
À bientôt.
Journaliste pour Cryptos, Vincent Gann et Xavier Fenot qui nous accompagnaient, nos deux traders du jour. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance et aux enjeux macroéconomiques du jour.